Bonjour à toutes et à toutes, merci d'être à l'écoute de 48FM pour cette nouvelle visite radiophonique avec Caroline Entraigue du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Salut.
Nelly Lafont, chef de projet au Pays d'Art et d'Histoire, Mandelotte, Angers-Vaudan. Salut Nelly.
Salut.
Et on a également, pour cette visite, on est trois, enfin on est quatre avec moi, on a Vincent Lhermé du Pays d'Art et d'Histoire aussi qui est là. Bonjour Vincent.
Salut à tous.
Alors Nelly, on va aller où aujourd'hui ?
Ah, ben là, aujourd'hui, on t'amène au Canada. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte Angers-Vaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Un peu de route, un peu de travaux sur les routes. De route possible, on prend la plus longue, mais on est quand même arrivé. Caro, on est où ?
On est ici sur un grand plateau granitique qui forme un peu le sud de la Margeride. On est en jonction juste au-dessus de la vallée du Lot. On est sur le plateau du Roi. À l'est, on a le col de la Pierre Plantée avec le plateau de Montbel par lequel nous sommes arrivés par le chemin le plus long. On est à l'entrée un petit peu du territoire de Randon. On a la présence de nombreux trucs. Donc ça, c'est sur la partie ouest. Ce qu'on appelle les trucs, c'est des petits sommets plats, on avait déjà parlé, qui sont sur notre gauche. Et ensuite, au nord, les monts de la Margeride. Et on est au bord de la Collagne, qui est juste devant nous, devant le lac Charpal.
Voilà, donc on est arrivé au lac Charpal, d'où ton petit clin d'œil, Nelly, le Canada. C'est vrai que ça ressemble un peu quand même.
Voilà. Canada, Scandinavie, souvent quand les gens prennent en photo ce coin-là, Charpal, ça évoque le Canada ou la Scandinavie.
Vincent, du coup ici on est sur quelle altitude ?
Bon, au niveau du lac on est à environ 1330 mètres et les plateaux au-dessus 1400 jusqu'à 1551 au truc de Fortunio qui domine le lac.
Du coup ça influe sur les températures j'imagine ?
Oui, du coup, on est sur un carrefour climatique ici avec différentes influences. L'influence océanique par l'ouest, plus continentale par l'est. Et on est même en limite nord des influences méditerranéennes. Les épisodes cévenols peuvent remonter jusqu'ici. On a les sécheresses aussi qui peuvent intervenir ici. Mais on a quand même une température moyenne très basse du fait de l'altitude. Et ce qui fait qu'on a une végétation relique de la période glaciaire avec des espèces spécifiques comme le sol des lapons ou le bouleau nain aussi qui se retrouve dans les tourbières ici autour du lac.
Caro nous expliquait, on est sur le plateau du Roi. J'imagine qu'il y a encore une histoire de seigneur, Nelly.
Oui, bon, faut prendre ça avec des pincettes. Effectivement, il y a beaucoup. Pourquoi on appelle le plateau du Palais du Roi ce plateau ? Il y a plusieurs explications, plusieurs hypothèses. La tradition nous renvoie à soi-disant un roi qui aurait bâti un palais. Et en fait, ça nous renvoie à un vestige très important qui a été redécouvert il y a quelques mois ici sur la commune de Pelouse, cette fameuse villa gallo-romaine entre commune de Pelouse et commune du Bord. Donc, est-ce que cette appellation renvoie à ce vestige énorme qu'on a trouvé et dont on reparlera tout à l'heure quand on fera notre deuxième arrêt? C'est possible, en tout cas, il n'y a rien qui l'atteste. Et donc, pourquoi Palais du Roi ? Ben, la question demeure. Ce qui est sûr, c'est que donc on a des vestiges de la période préhistorique, donc qui nous montrent que sur ce secteur, on a un habitat, en tout cas une fréquentation dès les premiers temps, puisqu'on a non loin d'ici découvert le dolmen du Ferron sur la commune du Bord, qui est jusqu'à présent le seul dolmen en granit du département qui a été, qui a pu être utilisé à la période néolithique et proto-historique. Et puis donc cette fameuse villa, enfin ce fameux bâtiment qui a été découvert il y a quelques années et puis redécouvert avec des fouilles, récemment, qui montre qu'il y avait une première installation de bâtiments assez conséquents avec certainement une vocation d'élevage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une villa et que c'est la plus haute du département en termes d'altitude. Donc ça, c'est très important.
Qu'est-ce qui reste de cette villa ?
Alors, il y a plusieurs bâtiments, mais je crois qu'on en reparlera tout à l'heure. Voilà.
Ce qu'on te propose, Ludo, c'est peut-être d'avancer un petit peu pour regarder le paysage qui s'offre à nous un peu plus loin.
Allez, allons-y. On s'est enfoncé un peu dans la forêt, à côté du lac, un endroit à cep pour les Mondois, on le sait, Caro.
Bah oui, ici c'est un territoire de loisirs, on a la station de ski, la randonnée et bien sûr les champignons, Ludo. Mais c'est aussi un site avec une histoire assez riche et atypique, et notamment une histoire paysagère atypique. Donc devant nous, on a un paysage qui est plutôt très boisé, qui est issu de la période de reboisement du Fonds forestier national, qui date à peu près de 1948. Il faut savoir qu'en Lozère, il y a environ 40 000 hectares de pins, aussi bien du pin laricio que du pin noir d'Autriche, que de l'épicéa, du douglas, du sapin, qui ont été replantés sur l'ensemble du département. Et ces plantations, elles avaient pour but de trouver une nouvelle économie pour un territoire rural un peu en exode. Et aujourd'hui, ça nous fait ces fonds boisés, sur lesquels on est au niveau des tables de pique-nique, avec des forêts en monoculture, ce qu'on appelle la futaie régulière, tu t'en souviens, c'est le tronc droit qui est planté régulièrement avec des arbres qui ont à peu près tous le même âge. Peut-être je te laisse Vincent compléter sur la partie un peu plus botanique, on parlait tout à l'heure du boulonnin, peut-être sur ces forêts, sur quelle essence on est.
Mais là, justement, ces reboisements dont on parlait tout à l'heure autour de Charpal, c'est essentiellement oui, de l'épicéa, ou du douglas ponctuellement et d'autres essences, mais voilà, on n'a pas de pin ici, c'est voilà essentiellement l'épicéa. Avant ce reboisement là du fond forestier, ici on était vraiment sur un secteur d'altitude où c'était de la lande ouverte, quoi, lande à calune comme on peut retrouver sur le sommet du mont Lozère. Donc il faut imaginer un paysage qui était vraiment totalement différent il y a 60-70 ans et qui était pâturé, qui servait voilà de package pour les communes alentour, alors qu'aujourd'hui on a vraiment basculé dans un paysage forestier avec toutes les activités liées activités forestières, les champignons l'automne. Tout ça, ça a engendré aussi une évolution de la faune qu'on peut retrouver ici. Avant, c'était la faune des landes, des milieux ouverts. Maintenant, on est dans les milieux forestiers. Donc, on retrouve du cerf, du chevreuil, les petites chouettes de montagne qui commencent à revenir dans toutes ces forêts de résineux qui ont été plantées, qui commencent à vieillir au fur et à mesure et qui deviennent de plus en plus accueillantes pour diverses espèces.
Ce qui est très intéressant sur ce site-là, c'est qu'on voit que le paysage peut évoluer très rapidement. Sur 60 ans, finalement, on va retrouver d'un paysage ouvert, on arrive à un paysage fermé. La faune vient complètement évoluer. Du fait de la création du barrage, on a des zones humides qui sont venues se créer, qui n'existaient pas forcément auparavant. Et donc, c'est important, quand on parle de paysage, de parler de dynamique, en fait, du paysage. Et celui-là en est une bonne référence.
Alors on a évoqué rapidement ce fameux barrage et le lac. Donc effectivement, ça date pas de très très longtemps. Comme on l'a dit en introduction, donc on est ici à 1326 mètres d'altitude sur un site qui est non habité. Et donc c'est à l'issue de la Première Guerre mondiale, le ministère de la Guerre va rechercher des sites qui permettent le stockage de la poudre à canon confisquée aux Allemands ainsi que les surplus français. Mandatée à cet effet, la Poudrerie nationale de Toulouse choisit le site de Charpal parce que, site non habité, comme on l'a dit, pour créer un dépôt de munitions, sous la custre. C'est ainsi que s'explique la construction entre 1923 et 1929 d'une ligne de chemin de fer d'une quinzaine de kilomètres, destinée à acheminer dans un premier temps les matériaux nécessaires à la construction du barrage et dans un second temps les munitions à immerger.
C'est la ligne secrète du Translosérien ?
Alors oui, c'est la fameuse ligne dont on a parlé quand on a fait notre visite avec Caro du Translosérien. Donc je rappelle, le Translosérien, c'est cette ligne transversale qui relie le monastier à la Bastide en passant par Mende. On l'a évoqué très rapidement. Donc le barrage est construit entre 25 et 34, mais l'eau se révélant plus acide que prévu, elle provoque en fait des fuites dans la chaux produites sur place. Donc il faut dans un premier temps réduire de 25% la hauteur d'eau qui ne permet plus en fait la bonne réalisation du projet d'immersion de la poudre. Le projet est alors abandonné et la ligne est déférée en 1938. Alors il reste quand même quelques vestiges, je pense qu'on en avait parlé lors de notre dernière visite. Donc une partie des emprises aujourd'hui est aujourd'hui un point de passage du GR43. Et outre des déblais et remblais, les principaux indices encore visibles de cette ligne sont le fameux poste d'aiguillage de l'Arzalier et la maison garde-barrière sur la Nationale 88 à hauteur du col de la Pierre Plantée. On a deux bâtiments partiellement en ruine sur le bord de la route qu'on voit très bien quand on passe en voiture. Donc en 1942, l'État français cède les terrains expropriés aux eaux et forêts afin d'assurer le reboisement des abords du barrage. Puis en 1946, la ville de Mende devient propriétaire du barrage et l'adapte afin de l'utiliser pour l'alimentation en eau potable. Donc voilà, l'eau de Mende vient du barrage du lac de Charpal.
On a des chiffres supplémentaires sur ce barrage, Vincent ?
Oui, alors le barrage, il a une hauteur de 16 mètres environ, ce qui permet de retenir 8250 milliers de mètres cubes d'eau. Donc il a été mis en service, enfin rehaussé en 1994, tel qu'il est dans sa configuration actuelle. Et on a une retenue qui fait environ 200 hectares. On a une retenue qui fait environ 200 hectares, 195 hectares. Donc on ne l'avait pas précisé, mais c'est sur la rivière Cologne qu'est établi le barrage. Et donc ce lac, son principal usage, c'est l'alimentation en eau potable de la ville de Mende, outre les usages de loisirs et touristiques dont on a déjà parlé et dont on reparlera un peu plus tard.
Oui, parce que du coup le lac a été aménagé pour la balade, pour rebondir sur ce que dit Vincent, sur une boucle d'à peu près 9 km hein, sur le pourtour du lac. On a certaines portions qui se font sur des pontons en bois, qu'on va aller voir tout à l'heure, pour traverser toutes les zones de tourbières qui longent le lac et qui en font aujourd'hui un site très important d'un point de vue environnemental, avec notamment ici la création d'un site qu'on appelle Natura 2000, le plateau de Charpal. Donc c'est l'un des sites les plus intéressants d'Occitanie pour la conservation des tourbières. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois toutes les strates de la... On a toutes les strates de la zone humide, donc la zone quasiment très humide, donc au bord du lac, aux zones un peu plus sèches, à proximité des prairies humides.
Donc les tourbières que l'on retrouve aux alentours du lac et un peu sur l'ensemble du plateau, qui sont en régression justement du fait des reboisements qui ont eu lieu, hein, dont on a parlé tout à l'heure, sont des tourbières acides qui sont typiquement associées à des landes à pelouse à nard. Et ces tourbières, c'est un site vraiment particulier parce que c'est un des rares sites d'Occitanie où on retrouve une orchidée très rare. C'est l'orchidée Amarbia paludosa, et une des très rares stations en Occitanie se retrouve aux alentours du lac. Et d'ailleurs, il y a souvent l'été des amateurs de botanique, des botanistes éclairés qui viennent spécifiquement à Charpal dans l'espoir de retrouver ces orchidées qui sont vraiment très très rares à l'échelle française, quoi. Et on a également d'autres espèces rares comme le lycopode que l'on retrouve dans ces tourbières. Ces tourbières, elles assurent une qualité des eaux très, très bonne, qui permet la présence d'espèces liées justement à cette bonne qualité des eaux, comme la loutre, qui est une des principales espèces qui a mené à la création du site Natura 2000 sur le plateau du Palais du Roi. Et depuis justement cette création du barrage, le lac constitue également une halte bienvenue pour les oiseaux migrateurs et les oiseaux d'eau. Je ne sais pas si on l'a entendu sur l'enregistrement, mais derrière nous, là, il y a des goélands, on vient de les entendre. Puis on est en période de migration, là, début avril, on peut observer plusieurs espèces que l'on ne rencontre pas en été, par exemple, mais que l'on rencontre en migration, le balbuzard pêcheur, par exemple, qui est un aigle pêcheur. Donc, il plonge pour attraper les perches ou les autres poissons qui sont dans le lac. Puis, on a aussi des limicoles qui sont un peu les oiseaux échassiers, quoi, enfin, avec les grandes pattes que vous avez sans doute déjà dû voir. Et que l'on peut voir quand on fait la balade autour du lac. Donc ces périodes d'avril et fin août, début septembre sont les bonnes périodes pour voir toute cette variété d'oiseaux qui sont liés à la présence de l'eau sur le plateau.
En tout cas, on a entendu les oiseaux, on entend le bruit de l'eau, mais on entend aussi les touristes. Voilà, peut-être qu'on peut le dire, mais on n'est pas les seuls aujourd'hui autour du lac. Allez, ben, je vous propose de reprendre la voiture et on va redescendre un petit peu pour faire un arrêt à la fameuse station de ski de l'Aubert.
Fait très peu de voitures, hein. On est reparti direction Badarou, et juste après il y a cet espace du plateau du Roi, cette station de ski finalement, Caro.
Donc là, oui, la station de ski où on est a été créée en 1971. Et dans un premier temps, c'était les pompiers de Mende qui venaient s'entraîner ici à l'Aubert et qui damaient eux-mêmes les pistes. En 1974, on a eu le premier séjour touristique chez l'habitant, qui était logé au château de l'Aubert et par les habitants du village. On a ici à peu près 31 km de pistes de ski de fond. Et en fait, cette station de ski de fond s'est faite en même temps que le développement des stations de ski en Lozère dans les années 70-80. Il faut imaginer qu'à l'époque, on avait jusqu'à 26 foyers de ski de fond dans les villages, ce qui est énorme aujourd'hui. On en a plus que 6, dont la station ici de l'Aubert, qui est encore active aujourd'hui et plutôt très bien fréquentée.
Et là, on est sur un petit espace déboisé, Nelly, qui correspond à quoi ?
Ben, on se trouve sur le site de cette fameuse villa hein, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, on ne le dirait pas, parce qu'on n'a pas de vestiges sous les yeux, mais parce que tout a été entièrement recouvert pour des questions de conservation. Mais c'est ce fameux site qui a été l'objet de fouilles il y a quelques mois par l'INRAP et qui a pu amener donc des conclusions assez exceptionnelles pour le secteur, puisqu'on a découvert donc un vaste bâtiment qui couvre toujours un carré de 35 mètres de côté, soit une superficie de plus de 1200 mètres carrés. Donc ça montre l'importance de ce bâtiment. Et donc au sein de cette construction, donc on a identifié des sols de terre battue, des maçonneries à la fonction pour l'instant indéterminée, des espaces intérieurs de très grande dimension, pouvoir s'apparenter à des étables, hein, on l'a dit tout à l'heure, certainement une partie en vocation élevage. Donc ces dimensions importantes de cette zone qui correspondraient à l'hébergement de troupeaux durant les longues périodes hivernales, ainsi qu'au stockage de la nourriture nécessaire à leur entretien, des fragments de vaisselle aussi ont été découverts, qui démontrent l'existence d'une population résidant à l'année. Donc ça c'est important, ça montre qu'il y avait une partie habitation ici. Voilà, et donc ce sont ces derniers éléments, donc ces fragments de vaisselle, qui ont permis de situer l'occupation sur une longue période, allant de la fin du 1er siècle au 3e siècle de notre ère. Donc une occupation assez longue dans le temps aussi. Autre particularité donc, qu'on peut noter, c'est qu'à la fin de la période antique, ce site a été violemment détruit par un incendie, possiblement dû aux invasions barbares de l'époque. Donc une poutre carbonisée a été découverte, ainsi que de nombreux charbons de bois et des éclats de roches noircies par le feu. Plus tard, le site a été réoccupé par des charbonniers. Des ouvriers ont peut-être aménagé des espaces de vie à l'intérieur des ruines, possiblement entre le 9e et le 12e siècle. Et enfin, pour reprendre le bilan du diagnostic, ce site est d'une importance capitale pour l'étude de la dynamique du peuplement antique de ces hautes terres de Lozère. Il ne reste plus qu'à le valoriser, projet auquel la mairie de Pelouse commence déjà à cogiter et ne va pas tarder à s'atteler.
Est-ce qu'on a une actualité sur ce plateau du Roi, Nelly ?
Oui, alors justement, ça faisait une bonne transition. Donc l'actualité, c'est ces fameuses fouilles et ce projet d'aménagement qui va avoir lieu sur le site. Pas loin de là, donc on est sur la commune de Pelouse. La commune de Pelouse vient de restaurer la Vierge Noire de l'église de la Rouvière. Donc ça, c'est une bonne chose aussi.
Et sur le site de Charpal, les platelages bois viennent d'être repris sur une partie. Et également, le conseil départemental va sortir un livret espace naturel sensible qui va sortir en juillet. Et l'idée, c'est de mettre en valeur un peu le patrimoine naturel de la Lozère et réalisé par le CPU de la Lozère.
On a une anecdote pour Briller en Société ?
Évidemment.
Et comme on est trois, on en a trois.
Alors, tu sais que le lac de Charpal détient un record ? Ludo, est-ce que tu le sais, ça ?
Absolument. C'est le plus grand lac pour la pêche no-kill en Europe.
Première anecdote pour Briller en Société, c'est le plus grand lac de pêche au brochet no-kill de France et non pas d'Europe. Voilà. Mais figure-toi que de nombreux Lozériens ont été traumatisés dans leurs enfances par leurs parents qui leur disaient que c'était des crocodiles qu'il y avait au lac de Charpal et non des brochets. Voilà. Une enfance difficile hein, pour les jeunes Lozériens.
Merci Nelly. On était à peu près au courant de cette anecdote. Donc on va voir, Caro, qu'est-ce que tu nous proposes comme anecdote?
On va encore élever le niveau de l'anecdote. Est-ce que tu connais l'usage miraculeux de l'eau du lac?
Ça, je ne connais pas.
Sache que l'eau du lac de Charpal est connue pour son acidité qui permet d'enlever le calcaire des bouilloires.
Incroyable! Je suis un peu déçu, je pensais que vous alliez me parler d'une dame du lac, de fées, de monstres ou même de cadavres trouvés au fond du lac.
Ah mais figure-toi qu'au fond du lac, en fond est du lac, il y a le fameux ruisseau de la Combe des Noyers de Moumentou. Et juste à côté, un autre affluent qui s'appelle la Combe des Morts. Bon, on se doute qu'il a dû se passer des choses pas très nettes dans ce secteur.
Merci Vincent, on a bien fait te prendre avec nous aujourd'hui pour avoir une superbe anecdote.
Voilà, tu veux du croustillant, t'as du croustillant quoi.
Mais voilà, pour les pêcheurs qui iront sur l'eau, faites attention à pas trop vous pencher pour rattraper le brochet, on sait jamais.
Le crocodile tu veux dire?
Ou le crocodile.
Mais par contre, ce que Vincent peut quand même compléter, c'est que les fameux noyés de Moumentou, c'est peut-être pas des noyés tels qu'on l'entend, tels qu'on pourrait le croire. Non, Vincent?
Oui, alors c'est une hypothèse, mais juste au-dessus de la Combe des Noyers de Moumentou, il y a le, si on regarde sur la carte hygiène, le Puège de Moumentou. Donc bon, Moumentou, sans doute le lieu dit. Les Noyers de Moumentou, c'est peut-être plutôt les zones humides qui sont justement, les tourbières qui sont en contrebas et noyé dans le sens terrain noyé plutôt que cadavre immergé dans le ruisseau.
Alors on va
peut-être pas parler de cadavre.
Si, on peut parler de cadavre. Alors on va travailler tout ça pour la prochaine émission pour peut-être en savoir plus, Nelly.
Oui.
Merci. Je n'ai qu'à moi te dire, merci. Non, mais...
Tu veux savoir où on t'amène la fois prochaine?
J'aimerais bien, tu sais bien que je suis curieux.
On va pas aller très loin la prochaine fois, hein, Caro? On reste dans le secteur?
On va rester dans le secteur, comme ça Nelly connaîtra le chemin.
Pour finir cette belle conclusion, n'est-ce pas, on pourrait écouter chanter le lac?
Donc Vincent, explique-nous, tu allais faire des sons sur le lac en hiver?
Et oui, parce que figurez-vous que quand le lac est gelé et qu'il n'y a pas de neige... Alors, il y a plusieurs conditions. Il faut que le lac soit gelé, mais sans neige par-dessus la glace. Avec un temps bien anticyclonique, bien froid la nuit et chaud en journée, comme on a eu cette année au mois de décembre, eh bien le lac, en fin de journée, il se met à chanter. Si vous vous approchez du lac, vous entendrez des sons assez mystérieux, assez chantants. C'est pour ça que l'on parle de chant du lac, qui se mêle à des craquements et aussi à des espèces de complaintes d'une dame blanche bloquée sous la glace, par exemple. Enfin, on peut s'imaginer pas mal de choses. Et je vous encourage, si vous avez l'occasion, l'hiver prochain peut-être, à essayer d'entendre ces sonorités qui sont vraiment assez fascinantes et assez mystérieuses. Quand on se retrouve au bord du lac, à la tombée de la nuit, avec le lac qui chante, ça laisse pas indifférent.
Allez, on va écouter ça tout de suite.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.